Bonjour, merci d'être venu si nombreux. Or, je ne vous présente pas Marcel Pérez, que tout le monde connaît, grand musicologue, chef de l'ensemble Organum et, entre autres, spécialiste de la musique du 11e, 12e, même 13e, avant, 13e, 14e, 14e, 15e, 16e, bravo, et musique. Hildegard von Bingen, que beaucoup connaissent aussi bien pour ses écrits sur la musique que pour ses écrits mystiques, que pour ses écrits sur les plantes, sur les animaux, et qui est également une référence pour la psychanalyse et pour les psychanalystes lacaniens, puisque le docteur Lacan a fait référence à Hildegard von Bingen dans le livre 20, le séminaire sur l'amour, à propos de la jouissance mystique. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marcel Pérez, parce qu'il a énormément de choses à vous dire sur Hildegard von Bingen. Donc, il va y avoir une première partie qui sera la conférence proprement dite. Ensuite, nous avons prévu un échange d'un quart d'heure, 20 minutes avec la salle. Pourquoi pas une dédicace de disques, si vous avez des disques. Et Marcel Pérez vous parlera également du programme d'Organum Sirma, des diagonales de printemps, d'été, d'automne que nous organisons régulièrement à Moissac, qui sont des rendez-vous particuliers avec la musique ancienne, pourrait-on dire. Donc je laisse la parole à Marcel Pérez sur Hildegard.
Bonsoir, merci d'être venu et vous êtes l'illustration du propos que j'aimerais tenir ce soir et qui concerne Hildegard et son impact sur le monde contemporain. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ce phénomène qui est quand même étonnant. Hildegard, c'est peut-être la femme du Moyen-Âge qui est la plus connue parce que après, il y a Aliénor d'Aquitaine, enfin, c'est autre chose. Hildegard, en plus, elle vient d'être élevée aux honneurs de docteur de l'Église. Donc, ce sera la 35e docteur de l'Église, la 4e femme, avec Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. La plus ancienne, 12e siècle. Et en plus, c'est le premier docteur de l'Église compositeur. Alors ça, c'est une première et ça mérite...
Compositrice femme.
Ouais, non, elle est au-delà.
Du genre.
Elle est déjà au-delà. notamment le concept de viriditas qui est... Peut-être je l'évoquerai tout au cours de mon discours. Enfin, je veux revenir à ce que je voulais dire. Donc, compositeur, docteur de l'Église. Alors, ça nous ouvre des horizons, insoupçonnés, auxquels on ne s'attendait pas. Hein. Parce que c'est vrai que l'Église catholique, depuis quelques dizaines d'années, ne brille pas par sa clairvoyance musicale. Ouais. Et pourtant, le 19e siècle a été un siècle extrêmement actif, tant sur le plan de la réflexion que sur le plan du travail historique pour les catholiques qui ont fait réalisé des grandes encyclopédies, oui, comme la patrologie latine, la patrologie grecque, le dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, et puis tout ce mouvement sur le chant, la restauration du chant grégorien, les éditions de Solesmes, il y a juste un siècle, dans la première dizaine d'années du 20e siècle. Donc il y a vraiment eu un effort colossal qui a été fait. Et puis après, Vatican II, les choses se sont effondrées, on n'a pas réussi à trouver un modèle de chant. C'est-à-dire le modèle qui avait été mis en avant au 19e et qui a été consacré par Pie X dans son Motu Proprio de 1903, qui était le modèle à la fois du chant grégorien, mais reconstitué, revisité, avec toute une réforme de la manière de chanter et de l'organisation du chant à l'intérieur de la liturgie. Et puis l'autre modèle musical, c'était Palestrina, et ses polyphonies, Renaissance, mais surtout fin 16e, vous voyez. Donc ce modèle a très bien fonctionné entre les deux guerres. Et après la Deuxième Guerre mondiale, bon, c'est un modèle qui n'était plus vraiment adapté aux aux enjeux de l'époque, aux enjeux de culture, de civilisation, et puis d'image, quoi, parce que l'Église, après la Deuxième Guerre mondiale, a eu un besoin vital aussi de se refaire une image, quoi, et de donner une vision d'elle-même qui crée quelque chose d'autre, quoi, qui ouvre d'autres perspectives que ce que les liturgies anciennes pouvaient susciter, parce que malgré tout ce ritualisme, cette manière de chanter qui avait été un enjeu premier dans l'Église, dans l'entre-deux-guerres, ça n'a pas empêché les horreurs de la guerre. Et il y a eu, plus ou moins consciemment d'ailleurs, hein, une association entre cette vieille culture liturgique et devenue tout d'un coup quelque chose de signe d'un monde réactionnaire. Mais vous voyez, si on chantait du grégorien, tout de suite on vous soupçonne d'être pétiniste. Enfin bon, il y a des raccourcis comme ça qui polluent, quoi, et plus ou moins consciemment la réflexion. Et donc on est parti vers quelque chose, enfin, on avait comme modèle qui oscillait entre le choral protestant et puis le négro spirituel. Et puis la chanson aussi. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a créé au début du XXe siècle les chorales paroissiales qui n'existaient pas avant. Avant, c'était des chantres. Et les chantres étaient un ordre mineur. Et on était chant de père en fils, ou donc la neveu. Donc il y avait une tradition continue et qui remontait à plusieurs siècles. On a créé des chorales, donc ça a changé complètement la fonction et puis la relation au chant. Et puis, alors, il faut retourner à Vatican II. Et ne vous inquiétez pas, on va arriver direct sur Hildegarde. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et j'essaie simplement de placer Hildegarde dans le contexte du XXe siècle. Pourquoi, au début du XXe siècle, tout d'un coup, Benoît XVI nous balance un docteur de l'Église, compositeur. Alors, donc on crée les chorales paroissiales et on fait chanter les femmes, parce que les femmes ne chantaient pas dans les paroisses, hein, jusqu'à Pie X. Donc un élément nouveau. Bon, et après Vatican II, donc, ben, bon, je ne veux pas vous en faire le tableau, nous sommes tous contemporains, on a tous vécu la même chose, et puis aujourd'hui encore, ben, on ne sait plus à quel saint se vouer. Mais justement, on en a une maintenant, on a une sainte à qui se vouer. Parce que Hildegarde, étant docteur de l'Église, ben, elle a les honneurs de l'autel, donc ça fait du 17 septembre, elle peut très bien être célébrée avec tout le faste, et Hildegarde a écrit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et naturellement, elle a écrit sur la musique. Et vers la fin de sa vie, elle a eu à vivre un épisode assez douloureux, hein, une grande épreuve. Elle avait accueilli un jeune homme au monastère qui avait été excommunié, bon, parce qu'il a eu un différend avec l'évêque de Mayence. Et puis, il est mort au monastère, et avant de mourir, elle l'a fait confesser, elle a, bon... normalement, ses fautes étaient absolument... Enfin bon, il est mort et elle l'a enterré. Et normalement, un excommunié n'a pas le droit d'être enterré. C'était des règles très très strictes. Donc elle est rentrée en conflit avec l'évêque de Mayence et l'évêque, pour les punir, leur a interdit de chanter. Voilà. Donc c'est la suspensio divina. Ouais. Donc elle disait l'office en parlant. Et puis là, elle écrit un texte complètement... héroïque, quoi, où elle explique à l'évêque comment il ne peut pas lui interdire de chanter. Il n'en a pas le pouvoir, quoi. Mais elle va obéir quand même. Mais elle lui explique que le chant, c'est ce que l'homme a conservé de son état quand il était au paradis. Et lorsque l'homme chante, eh bien, il rentre dans cette béatitude et puis dans cette expérience. De la voix, du souffle, de la parole, de l'autre, parce que le chant est toujours une relation. Même si on n'a pas d'auditeur, vous êtes en relation avec le monde, parce que chanter, c'est mettre en vibration l'air et propager cette vibration dans l'espace. Et donc, elle lui dit, donc, le diable, quand il a vu que l'homme pouvait goûter à cette félicité, a été très en colère. Et il a imaginé toutes sortes d'artifices pour que les hommes se disputent autour du chant, et notamment dans son église. Pour que dans son église, les hommes aient des conflits au niveau du chant. Et elle lui explique que donc, elle peut pas interdire de, il ne peut pas interdire de chanter parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature de l'homme. C'est une grâce que Dieu, c'est une grâce spéciale que Dieu a accordée. Et surtout, c'est par l'harmonie, par la beauté du chant que l'on peut vaincre les ruses du démon. Voilà. Hildegarde et le monde contemporain. Alors, cette femme, qui était-elle? Je vous ai un petit peu donné une idée de sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui, très tôt, est confié à un monastère. Elle avait 8 ans. Donc, c'était l'âge habituel. En général, on rentrait au monastère à cet âge-là. Et rapidement, on s'aperçoit qu'elle a des dons de vision, quoi. Et elle-même en parle, sa première expérience de vision, c'est en voyant une vache enceinte. Et puis, elle voyait le veau, quoi. Elle voyait une vache avec un veau dedans, quoi. Et ça lui semblait normal de voir un veau dans une ventre d'une vache enceinte, quoi. Mais bon, quand elle commence à parler avec ses copines, elle a perçu que tout le monde ne voyait pas le veau dans le ventre de la vache, quoi. Et donc, elle a une éducation de bénédictine, quoi. C'est-à-dire, on chante les offices. Et à cette époque-là encore, comme c'est le cas aujourd'hui en Orient, l'éducation religieuse se fait par la liturgie. On ne fait pas de catéchisme, même de théologie. C'est d'abord par la liturgie, et on abordera la théologie lorsqu'on aura vraiment complètement assimilé la science liturgique. Oui. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote, lorsque les protestants au XVIe siècle ont imprimé les premières Bibles, oui. Donc ils cherchaient des appuis, et ils sont allés voir le patriarche de Constantinople. Alors qu'il était intéressé à imprimer la Bible, oui, mais... Mais il lui dit, mais comment vous allez lire? Comment on la lisez? On la lit comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a deux mondes qui s'entrechoquent, quoi. Parce que pour le patriarche grec, il était impossible de dire et de proclamer la parole sacrée en dehors de la liturgie. La liturgie, c'est le lieu de la parole. Et la parole, on ne peut pas, cette parole-là. Donc vous voyez ce décalage entre ces protestants et puis cet homme d'un autre millénaire. Parce que justement, le premier millénaire, et puis on peut dire jusqu'au XIIe siècle inclus, on est en Occident vraiment dans la même mouvance spirituelle, liturgique. Ce que vous voyez aujourd'hui dans la liturgie d'Orient, mais c'est ce qu'il y a de plus proche, quoi, de ce qu'étaient les liturgies au XIIe siècle. Alors, au XIIIe siècle, il va se passer autre chose, vraiment, beaucoup de choses vont changer. Mais au XIIe siècle, on est encore dans ce temps naturel qui est complètement en phase avec le temps liturgique, et le temps liturgique qui lui-même est le nœud où se rencontre à la fois l'Église naturelle et l'Église surnaturelle, vous voyez. Alors, en phase avec le monde, alors c'est important de se représenter leur image du monde, parce que justement, l'œuvre d'Hildegarde, c'est une sorte d'immense poème sur les croyances, les connaissances et les expériences cosmologiques de l'époque. Donc, la première science, elle vient des psaumes, d'abord. Les 150 psaumes qui permet d'entrer dans la grande tradition qui est celle du temple de Jérusalem, parce que les psaumes viennent du temple de Jérusalem. Ce sentiment que l'on développe d'entrer dans une longue histoire dont on est non seulement participant, mais qu'on transmet. C'est une flamme que l'on transmet. Hein. La psalmodie, c'est vraiment un feu vivant. C'est perçu comme un feu vivant. Et pour donner une petite idée de l'importance qu'avait le feu dans ces mentalités, lorsqu'on a voulu consacrer le mont Saint-Michel, oui, eh bien les hommes qui ont compris qu'il fallait consacrer cet endroit, ils sont allés chercher une flamme au sud de l'Italie, au Monte Gargano, qui est un sanctuaire de Saint-Michel aussi. Et vous imaginez ces hommes du sud de l'Italie qui portent cette flamme jusqu'au Mont Saint-Michel. Oui. Donc on est encore dans, je dirais, bon, ce sont des derniers vestiges d'une culture préhistorique. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est du néolithique, du paléolithique. Enfin bon, ça remonte très très loin, mais c'est encore ce sens de la pierre et du feu. Et il le garde donc, alors, première approche avec la mémoire, c'est par les psaumes. Et les psaumes, ben, ils sont chantés. Parce que de toute façon, à l'église, on chante, on ne parle pas à l'église. Hein, on chante. Alors, ce chant, au XIIe siècle, comment se représenter ce qu'était la musique de cette époque? Premièrement, les documents qu'on a, il y en a quand même pas mal de choses pour le XIIe siècle, nous montrent un monde extrêmement riche, très diversifié, avec des traditions somptueuses dans des endroits qui avaient conservé une mémoire qui remontait à l'Antiquité pour beaucoup d'endroits, pour des lieux comme Bénévent, par exemple, au sud de l'Italie. Là, on chantait encore en grec au XIIe siècle. Et la musique qu'on a conservée nous montre quelque chose de très archaïque, qui peut remonter à l'Antiquité. C'est parfois des pièces qui évoluent sur un tétracorde. Donc, c'est vraiment un signe d'archaïsme. Hein, un chant qui se développe sur un tétracorde, c'est quatre sons. Oui. Conjoint, parce que toute la théorie grecque de l'Antiquité repose sur cette conscience tétracordale. Vous avez des lieux, j'allais dire innovants, mais en fait, je n'en sais rien, mais parce que pour le XIIe siècle, la grande innovation du XIIe siècle, c'est l'écriture. Et cette écriture va avoir une incidence sur la manière dont va évoluer le langage musical. Mais au XIIe siècle, on est encore dans une tradition vivante, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et en même temps, on commence à avoir une conceptualisation de la musique, une techné, une technique que l'on... qui, enfin... réussit à maîtriser la description des intervalles. Ça semble quelque chose de banal aujourd'hui, parce qu'on a tous appris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on a tous vu des pianos, donc bon, intervalle, hein. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4. Mais il faut attendre quand même le 11e siècle hein, pour que l'on arrive à décrire les intervalles. Et à les décrire de manière imparfaite, et il va falloir faire des choix. Donc c'est ce qui va freiner, parce qu'en fait, les intervalles, c'est un domaine qui est tellement complexe, hein, tellement subtil, et c'est très difficile déjà de trouver une raison, une ratio. Oui. Comment enfermer le logos dans une ratio? C'est, je dirais... toute la problématique que l'on voit poindre à l'époque carolingienne, autour de l'an 800, quand on exporte le chant de Rome et on l'accueille dans l'Empire carolingien, il faut faire un effort de mémoire colossal qui n'est pas vraiment possible, quoi, parce qu'apprendre un répertoire comme ça... c'est très difficile oralement, donc on va essayer de trouver les outils pour noter cette musique. Et bon, ça va quand même prendre un siècle pour qu'on mette au point un système de notation qui va indiquer les articulations du chant et la manière dont les sons sont groupés, mais qui n'indique ni les intervalles et le rythme de manière pas toujours évidente. Après, il va falloir attendre le début du XIe siècle. Donc, vous voyez, on est 9e, 10e, pendant deux siècles et demi, on réfléchit à la manière de noter les intervalles. Et finalement, c'est le plus vieux manuscrit qu'on a conservé. Il est conservé à Montpellier aujourd'hui, mais il vient de Fécamp. Et on a utilisé une notation double avec des nœuds, c'est-à-dire ces signes, là, ces petits signes qui indiquent le groupement des notes et l'ornementation. Souvent, l'ornementation est bien indiquée, mais pas les intervalles ni le rythme. Et puis, en dessous de cette notation avec ces signes qu'on appelle des nœuds, une notation alphabétique, ABCD, et qui correspond au l'acide doré d'aujourd'hui. Avec toutefois une nuance pour le demi-ton. Il y a un demi-ton grand et un demi-ton petit. Ça veut dire qu'à cette époque-là, ils ont réussi à conceptualiser, à comprendre comment fonctionnait cette division des intervalles, mais non pas d'une manière arithmétique. On est encore dans un monde qualitatif, c'est-à-dire c'est plus grand, c'est plus petit, et ça s'insère dans une proportion. Cette proportion, il faut la vivre. C'est tout l'art de la modulatio. Modulatio, qui est un des mots pour chanter, mais modulare, le premier sens de modus, c'est la mesure. C'est créer une mesure, créer des proportions qui vont se révéler au cours du discours. Et c'est cette modulatio, ars bene modulandi, c'est la définition que donne cet Augustin, d'ailleurs, du chant, c'est ars bene modulandi, l'art de bien moduler, voyez. Donc c'est un art du discours. Alors comment cet art du discours, eh bien, c'est un art qui va manifester un verbe. Alors, un verbe avec tout le sens que peut avoir ce mot verbe. Mais avant de développer cette notion du verbe chez Hildegarde, évidemment, je voudrais terminer sur la notation musicale, parce qu'on va, on va arriver au début du XIIe siècle, vraiment à une régénéralisation de la notation sur ligne. Et ça, c'est vraiment une révolution qui transforme profondément les mentalités, parce que tout d'un coup, on a une relation claire entre l'augmentation de la vibration du son, de la vitesse du son, qui se traduit par la montée vers l'aigu. En fait, quand plus vous entendez un son aigu, plus la vibration est rapide. Bon. Donc, on fait le lien entre cette augmentation de la vitesse de la vibration des corps sonores avec une projection sur un plan dans laquelle, lorsque une courbe ou une trajectoire est ascendante, eh bien, on la relie à l'aigu. Et lorsque la trajectoire est descendante, on la relie au grave. Vous voyez, c'est évident. Aujourd'hui, on dit, on monte, la mélodie descend. Mais non, c'est pas évident de faire le lien entre le haut, le bas, le grave et l'aigu. Et vous voyez, il a fallu attendre le 12e siècle pour faire ce lien. Et pourtant, ils y pensaient. Et ils n'étaient pas bêtes. Mais ils étaient dans une autre perception du monde et ils n'avaient pas vu qu'il pouvait y avoir un lien entre la projection sur un plan et les modulations plus ou moins graves. Parce que, alors, quelle est leur mentalité, justement? Quand ils chantent un chant, à quoi pensent-ils? Et lorsqu'ils vont enchaîner des degrés, bien, comme je vous l'ai dit, ils enchaînent des proportions, des mesures qui vont s'inscrire dans une proportion. Alors, premier mot pour mesure, c'est modus. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver dans le latin, la théorie musicale de l'époque, le mot modus qui va servir à dire intervalle parfois. Modus qui peut se rapporter aussi au monde de la durée. On parlait de mode rythmique, par exemple, avec ça va être une manière d'enchaîner les longues, les brèves. Allez, mode doux, ça peut être aussi ce qui correspond au mot mode aujourd'hui, quand on dit le mode de ré, le mode de fa. C'est-à-dire, c'est une organisation de la succession des intervalles. Hein, à l'intérieur d'une échelle, par exemple, vous allez avoir un ton entre le premier et le deuxième degré, et un demi-ton entre le deuxième et le troisième. Ça va faire ré, mi, fa, par exemple. Donc, mais lorsqu'on chante, vous voyez, on ne va pas penser ta la la, ré mi fa, on va penser ya. Yeah. il y a ce parcours et, qui est généré par cette vibration première. Et là, je crée une relation entre le premier et le deuxième son, qui est une tierce mineure, qui est, pardon, une seconde mineure, qui est, mais qui s'inscrit dans un ton. C'est-à-dire, vous allez avoir soit un grand ton, soit un petit ton. Ça, c'est un grand ton. Et le son doit être générateur, quoi. Il génère, quoi. Et d'ailleurs, ça vaut la peine de s'arrêter sur la notion d'intonation. Aujourd'hui, on voit souvent ce spectacle affligeant lorsqu'un chœur va interpréter quelque chose, du maître de chœur qui fait... Ou alors, pire, encore un petit clavinova, pim, 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 on donne la note et on y va. Bon, il y a un hiatus. Il se passe un truc, bon d'accord, clavinova, tout d'un coup, une polyphonie 16e, plam, qui explose, on se dit, bon, il manque quelque chose, quoi, il manque une case. Et ça, cette case, c'est celle de l'intonation, parce que l'intonation, c'est une chose extrêmement importante. Que si on entonne n'importe comment, ou alors d'une manière comme ça, un peu, comment les chanteurs vont rentrer dans sa vibration, comment l'intonation doit créer ce mouvement qui va mettre en phase l'édifice, déjà. Alors évidemment, on ne va pas entonner de la même manière dans une pièce comme ça, dans une cathédrale qui fait 100 mètres. Hein. Il faut donner la vibration, il faut que donc la percevoir. Donc, c'est pas seulement donner le ton au chanteur, c'est donner le ton à l'édifice, le lieu. Et là, il faut avoir en mémoire le premier sens de templum. Aujourd'hui, on dit un temple. Oui. Alors, templum, le premier sens dans le latin archaïque, c'est un espace. Templum, c'est un espace. Et c'est un espace qui est créé par, alors, lorsqu'il s'agit d'un templum sacré, cet espace, il est créé par un geste vocal du célébrant qui va déterminer un espace. Un geste cassant, on dit, parce qu'on va créer un dehors et un dedans. Quand on va créer un espace, eh bien, cet espace, il est centré sur quelque chose qui est à l'intérieur. Et donc, on crée un extérieur. Et la contemplatio, dans templatio, vous avez templum, mais vous avez templum avec l'idée qu'on construit quelque chose, comme la construction. Voyez. Et contemplatio, ça va être cet acte d'adhérer au mouvement de la création d'un espace sacré par la voix. C'est ce qu'essayait d'expliquer Hildegarde à son évêque de Mayence. Et donc, l'intonation est une chose extrêmement importante, quoi. Et alors, Hildegarde grandit dans ce milieu-là. Premier outil le plus fabuleux pour les hommes de cette époque-là. Donc, elle naît, pour ceux qui ne le savent pas, elle naît à la toute fin du 11e siècle, hein, 1098, donc 8 ans après Saint Bernard, c'est un petit peu plus jeune que Saint Bernard. Donc, pour les musiciens de cette époque, la chose la plus fabuleuse, c'est d'arriver à noter les intervalles et puis les échelles. Ya la 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 la, ya la. Vous voyez, des descentes comme ça, tout d'un coup, on les voit. Et on fait ce lien entre cette descente vocale et ce mouvement. Le chant devient vraiment une manière de dessiner un espace, de dessiner un temps. Parce que dans le domaine d'existence de la musique, c'est le temps. Et donc, va devenir une manière de ciseler ce temps, et ce temps délimitant un espace, mais avec une conscience qui associe à la fois l'ouïe, mais la vision et la vision intérieure, parce que quand vous suivez la mélodie et que vous suivez tout ce mouvement-là, c'est pas quelque chose que vous voyez avec vos yeux, c'est quelque chose que vous voyez avec un regard intérieur. Et lorsqu'on est formé à la psalmodie, donc la psalmodie, qu'est-ce que c'est d'ailleurs la psalmodie ? Ben c'est l'art de chanter des poèmes qui sont structurés d'une manière très symétrique, c'est-à-dire dans un psaume, vous avez des versets, et chaque verset est divisé en deux. Il y a une première partie et une deuxième partie. Et c'est un art donc de la déclamation. Donc il faut, vous avez une phrase, cette phrase se divise en deux parties, parfois cette phrase se divise en quatre parties. Mais, et la technique consiste à la fin de chaque période à ajouter une petite formule qui marque la fin de cette période pour aller vers l'autre. Donc je vous ai dit que dans un verset il y a deux parties. Donc la formule, la fin, la première partie, on l'appelle la médiante. La formule de la fin, deuxième partie, on l'appelle alors la différence. Alors, différence, pourquoi ? Parce que c'est une formule qui peut varier, et qui peut être parfois très variée, comme à Milan, on connaît plus de 70 formules pour terminer un verset. Dans la tradition romaine, il y en a moins, on en a une quinzaine, oui. Un petit peu plus, on doit être pas loin de 20. Bon. Alors, donc c'est un art du discours. On revient toujours à cet art du discours. Et d'ailleurs, comment se dit l'art du discours en latin ? C'est oratio. Orare, qu'on traduit aujourd'hui par prière, prier, oratio. Bon. Oui, dans le premier sens, c'est os ori, c'est la bouche, c'est la parole, c'est un acte vocal. Par exemple, on peut dire en latin classique, oratio, ça peut avoir le sens aussi du propos. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un type de propos, vous voyez, que je vous adresse. Et en latin, on pourrait dire oratio, mea. Donc, c'est ce dont je vous informe. Alors, un art oratoire, cette psalmodie, donc cet art de déclamer cette grande poésie qui remonte à la grande tradition du temple de Jérusalem, tradition qui a fasciné les Carolingiens. Je vous rappelle pour mémoire quand même que autour de l'an 800, lorsqu'on a commencé à vraiment avoir tous les éléments pour pratiquer la liturgie romaine, il y a des lieux qui se forment. Comme Sarriquier dans la Somme, vous voyez, où on va pratiquer ce qu'on appelait la Laus Perennis. La Laus Perennis, c'est le chant des 150 psaumes en 24 heures, donc on ne s'arrête pas. Quoi. Il y a trois équipes de chantres qui se relaient, et vous voyez ces églises bourdonnantes, parce que c'est vraiment un feu vivant. Et c'est au travers de ces psaumes qu'on reste en contact physique avec la tradition. Et dans la région d'Île-de-Garde, il y avait des endroits aussi où on pratiquait encore fin 11e, début 12e, la Laus Perennis. Alors je vous parle de ça parce que, je dis ça approximativement, mais enfin, 60 à 70% de l'œuvre d'Île-de-Garde, ce sont des antiennes. Et des antiennes, c'est des pièces qui encadrent des psaumes. Donc ça aussi, il faut voir toujours, lorsqu'on va vers la musique d'Île-de-Garde, que c'est une musique liturgique, à part l'Ordo Virtutum, qui est autre chose, qui a un mystère, en fait, hein, mise en scène. Le reste, c'est de la liturgie. Alors, donc, vous avez soit des antiennes qui encadrent des psaumes. Donc une antienne, c'est un chant qui introduit le chant du psaume et qui fait le lien entre le psaume et ce qu'on est en train de célébrer et qui donne en même temps la direction de la méditation de ce psaume. Parce, bon, voilà, donc les paroles du psaume, on les contemple dans la perspective de la fête du jour. Quoi. Et chaque antienne donc apporte, bon, c'est un parcours que l'on crée en fait dans la contemplation liturgique. Alors, souvent, ces antennes sont très longues, hein, peuvent durer 4 minutes, vous voyez, ou 5 minutes. Hein, donc, vous avez l'antienne de 5 minutes, après le psaume qui va faire 5-6 minutes, après on reprend l'antienne, donc, un psaume c'est 15 minutes. Après, on passe au deuxième psaume, et ça repart. Ouais. Après, dans son œuvre, vous avez des répons. Alors, les répons ont plusieurs fonctions. On les chante principalement dans l'office de nuit. Donc, l'office de nuit, c'est le grand office. Dire, c'est le principal, parce que c'est là vraiment que se constitue la conscience. La conscience de ce qu'on est en train de faire. Bon, déjà, c'est au cœur de la nuit, donc on se lève au milieu de, un peu avant le milieu de la nuit, parce que l'office doit commencer au milieu de la nuit. Donc, et toujours, on détermine l'heure par rapport au soleil, quoi. Donc, non, ça change tous les jours, mais bon, c'est le travail du maître de cérémonie de bien gouverner, quoi, la liturgie pour être à l'heure. Et par exemple, l'office des laudes doit commencer à la dernière heure de la nuit, commence dans la nuit, et lorsqu'on arrive à l'hymne, on doit avoir les premières lueurs qui arrivent pour que pour le Benedictus, on ait le premier rayon. Ouais. Donc voilà, tout l'art du maître de cérémonie, c'est justement de mener quoi, cette manière de chevaucher le temps, d'être en phase, tout simplement en phase avec l'univers. Quoi. C'est pas compliqué en fait. Et donc, les répons, donc je vous disais que chez Hildegard, vous trouvez alors majorité d'antiennes qui encadrent des psaumes, après vous avez des répons. Donc les répons, on les chante à l'office de nuit, on les chante aussi, alors parfois on va prendre un répon de l'office de nuit pour le chanter au laude, par exemple, justement avant l'hymne. Vous avez dans ce qu'on appelle les grandes heures, c'est-à-dire les offices plus développés que sont les laudes et les vêpes, qui sont symétriques, parce que pour les vêpes, c'est la même chose. On commence à la dernière heure du jour et on doit terminer. Pour les vêpes, le critère, c'est qu'on allume une bougie, donc il fait jour, toi, et lorsqu'on arrive au Magnificat, il faut que ce soit la lumière de la bougie qui commence à éclairer l'édifice et que la lumière du soleil, elle se soit retirée. C'est le moment de cette jonction. Et donc tout l'art, c'est d'arriver à ce point-là, et là, on entonne le Magnificat. Évidemment, là, je vous parle d'un art idéal, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde... Mais quand même, parce que aujourd'hui, ça nous semble des choses... un peu compliqué à faire, mais c'est ce que font les musulmans tous les jours. Donc, dans la prière, elle est à des moments qui correspondent à l'heure solaire, en fait. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont si éloignées que ça et si compliquées que ça à faire. Alors, vous avez... Alors, les répons, parfois, on peut en trouver un pour justement annoncer la première partie des grands offices. Donc, vous avez 5 psaumes. C'est l'évocation de l'ancienne alliance, Jérusalem, son temple. Puis après, la deuxième partie, vous avez une lecture brève. Et puis, l'hymne et le Magnificat, ou l'hymne et le Benedictus, qui sont des cantiques évangéliques. Donc, cette deuxième partie, c'est naturellement la nouvelle alliance. Et entre les deux, là, peut intervenir le répon. Un répond, donc il y a quelque chose de très développé. Ça peut être chanté en polyphonie aussi. C'est un des lieux de l'organum aussi. Donc, vous avez les 5 psaumes, le capitule, et puis le répond. Et puis ensuite, l'hymne, Magnificat, l'hymne et l'autre. Donc, on trouve des répons d'Hildegard. Et puis, on trouve aussi des hymnes, alors qui ne sont pas du tout des hymnes avec une strophe, des strophes, et puis toujours la même mélodie. Chaque strophe, non. C'est des mélodies différentes à chaque strophe, et puis ça peut être très développé. Quoi. Il y a des hymnes qui durent un quart d'heure. Ouais. Et puis là, c'est la grande évocation de la grande mémoire, toujours avec une idée très processionnelle, vous voyez. Il faut dire que l'imaginaire liturgique de l'époque est encore... Bon, enfin, ils sont encore complètement dans la trajectoire qui a été créée par les Carolingiens. Et en plus, parlant d'Hildegard, on n'est pas loin des hauts lieux, quoi, et même de l'origine de la culture carolingienne, Bordurin, du Rhin, on n'est pas loin d'Aix, voyez, Mayence. Enfin bon, on est vraiment au cœur du pays des Francs, quoi. Et donc tout l'effort qu'ont fait les Carolingiens pour créer une liturgie qui assimile tout l'héritage de Rome et de la Grèce est toujours très très fort. Et notamment, l'Apocalypse a joué un rôle déterminant dans la construction de cet imaginaire liturgique. Hein, parce que, il y a des scènes de liturgie dans l'Apocalypse, hein, où on voit l'agneau sur l'autel, et puis toutes les différentes masses, et les clercs, ceux qui sont rachetés, ceux qui ne sont pas rachetés, enfin bon, les anges, enfin il y a tout un ordonnancement. Après, il y a toute une évocation des couleurs et des pierres précieuses, alors qu'on va retrouver chez Hildegard. C'est très récurrent, hein, dans les images qu'elle emploie, parce que chaque pierre, bon, non seulement a un sens, mais ces gens-là ne vivent pas dans la métaphore, ils vivent dans l'expérience. Quand on dit que telle pierre rayonne tel type de lumière, ben, ils le ressentent, quoi. C'est pas des trucs qu'ils inventent, quoi. Ils sont sensibles à toutes ces choses-là. Et naturellement, quand on va parler de topaz, tout d'un coup, voilà, une vision... Hildegard disait toujours, elle a écrit un texte sur ses visions. D'ailleurs, on va essayer d'analyser comment ça se passe, quoi. Et elle dit qu'elle les voit, mais c'est comme si c'était ses yeux de chair. Mais c'est pas ses yeux de chair qui le voient, mais elle les voit, quoi. Et donc, maintenant, quand on va, allons dans la musique d'Hildegard un peu. La musique d'Hildegard, c'est, pour résumer, je dirais que c'est de la psalmodie complètement étirée, complètement développée, voyez. Une psalmodie qui prend son envol, quoi, et qui observe un cursus aléatoire, un cursus aléatoire, mais en utilisant une panoplie de formules qui font que lorsqu'on dit un texte avec une formule qu'on a beaucoup employée ou explorée, se crée un phénomène de, comment dire, d'enrichissement de la mémoire, enfin quelque chose, parce que vous savez, l'expérience de l'air connu, voilà. Vous avez un air connu, vous entendez un truc, tout d'un coup vous revoyez 30 ans avant, dans telle ambiance, et vous ressentez ces choses-là. Tout l'art du chant liturgique, c'est justement de travailler sur ces points de mémoire, parce que la liturgie est mémoire, hein. On dit toujours faire mémoire de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Alors, un petit exemple, vous voyez, vous avez, alors, avant de parler de l'exemple aussi, Hildegard, 99% de ce qu'elle chante, c'est pas sa musique, c'est le plein chant de l'époque, c'est bon, du grégorien, si vous voulez, chanté à la manière de l'époque, évidemment, hein. Donc ça, c'est important aussi pour voir que faut pas s'imaginer qu'Hildegard ne faisait que sa musique. Et puis elle faisait pas seule aussi. Je le précise parce que la plupart des disques, hein, qui ont été faits sur Hildegard ces derniers temps, souvent on chante un répond en soliste. Vous entendez une femme qui a souvent une belle voix d'ailleurs, mais voilà, qui a l'air un peu de rêver. Enfin, c'est de la contemplation liturgique. Donc on n'est pas là en train de rêver au clair de lune, quoi. On est dans un chœur, on est debout, parce qu'au XIIe siècle, on ne s'assit pas encore dans la liturgie. C'est au XIIIe siècle qu'on commence à s'asseoir. Donc on est debout, donc vous imaginez les offices de nuit, par exemple. Hein. Dans l'office de nuit, il y a une seule bougie qui est allumée dans l'église. Donc, l'office de nuit se passe dans la nuit, donc on est debout et on chante par cœur, évidemment. Et on chante pendant 2 ou 3 heures, quoi, donc. Vous voyez cette ambiance et le répond, il est là pour c'est comme une pause, parce que dans la structure de l'office de nuit, vous avez donc 3 psaumes ou 4 psaumes si c'est un monastère, 3 psaumes dans une cathédrale, 4 psaumes, et puis après vous avez 3 ou 4 lectures, et après chaque lecture vous avez un répond. Et les lectures, donc là aussi, c'est la grande mémoire de l'Église, parce que c'est des lectures, en général, des pères de l'Église, des servants de pères de l'Église. Donc, on reste en relation avec cette pensée du 3e, 4e, 5e, 6e siècle. Et après, intervient le répond. Le répond qui va amplifier, commenter, gloser, ou simplement aider à se remémorer de ce qu'on vient d'entendre. Donc c'est la méditation sur la parole qui vient d'être dite. Donc faut toujours penser à ce contexte, quand on va chanter un répond d'Hildegarde. Alors, c'est quand même un phénomène étonnant, cette Hildegarde, parce que elle a été assez célèbre de son vivant. Enfin, c'est là, faut pas s'imaginer que tout le monde connaissait Hildegarde. Enfin, dans un certain milieu, elle était connue. Après sa mort, elle a des disciples qui organisent sa mémoire de manière vraiment consciencieuse. On a un volume à Wiesbaden de ses œuvres complètes qui ont été faites une vingtaine d'années après sa mort. Donc on a la musique, et puis c'est à peu près épais comme ça, quand même. C'est un manuscrit épais comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a eu un travail fantastique de fait sur les miniatures aussi. Il y a eu des miniaturistes qui ont essayé de représenter ce qu'elle décrivait. Et pour la musique, on a un autre volume qui est à Termonde en Belgique aujourd'hui, et qui lui a été écrit du vivant d'Hildegarde, mais là, il n'y a que sa musique. Donc c'est tout ce qu'on a pour sa musique et ses textes. Et puis Hildegarde, elle est béatifiée assez rapidement au XIVe siècle. Elle est béatifiée, mais après, je dirais que son dossier en canonisation, il reste en jachère, ça, puis on s'en occupe pas tant. Elle est déclarée sainte, c'est ce qu'on disait. Il y a une vingtaine d'années, j'étais allé dans son monastère, parce qu'il existe toujours son monastère. Les bâtiments sont du 19e, enfin, il y a des bénédictines toujours là. Et les bénédictines me disaient « Oh oui, mais je ne pense pas qu'elle sera canonisée un jour, ça, parce que de toute façon, c'est ce qu'on appelle les saints populaires, et puis pour sa canonisation, ça coûte cher, tout ça, il faut plaider. On n'a pas besoin de ça. » Et c'est amusant, parce que finalement, c'est venu 20 ans après. Et alors, c'est quand même étonnant, parce que, Hildegarde, on en parle pas trop, même pas du tout, à part quelques érudits, mais au 15e, 16e, 17e, 18e. Au 19e, il y a une petite renaissance en Allemagne, parce qu'il y a une renaissance du national allemand, toutes ces choses-là, puis Hildegarde, c'est quand même une grande figure. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à étudier, à traduire en allemand ses écrits. Mais sa musique n'intéresse pas tellement. Sa musique, en fait, il faut attendre des ensembles comme Sequentia, vous voyez, il y a une trentaine d'années, ils ont commencé à faire du Hildegarde. Donc c'est un peu comme si la graine Hildegarde était restée en hibernation, comme ça, pendant 9 siècles, c'est quand même long. Et puis, tout d'un coup, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quand même? Parce que tout d'un coup, il y a un rayon qui vient dessus, et cette graine demande qu'à germer, parce que tout est là, vous voyez. Tout est là, et c'est quand même incroyable. C'est un peu comme pour Saint-Jacques aussi. C'est parce que, vraiment, Saint-Jacques de Compostelle, tout le monde parle de Saint-Jacques. Et c'est peut-être le saint le plus célèbre, enfin, dont on parle le plus, mais du côté de l'Église, il n'y a pas vraiment un discours sur Saint-Jacques. Il n'y a pas un apostolat de Saint-Jacques. On ne sait pas trop quoi dire d'ailleurs sur Saint-Jacques, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas les vraies reliques qui sont là. Il faut faire comme si c'était les vrais quand même. Enfin, l'Église est un peu mal à l'aise avec ça. Et Hildegarde, c'est un peu la même chose. Hildegarde, vous avez des flocons d'avoine, Hildegarde, des gâteaux à l'épeautre, Hildegarde, des soupes. Des tisanes Hildegarde. Hildegarde. En général, dans ces milieux nourriture bio ou New Age, tout ça, ils n'ont pas de culture liturgique et ils s'imaginent pas. Je suis dans un magasin bio à Moissac où ils ont plein de trucs sur Hildegarde. Je vais apporter mon disque d'Hildegarde, enfin, les trois quarts du disque, c'est de la psalmodie. Alors, ils ont de la musique très, très plane dans un magasin. Quand ils ont mis mon truc, c'est la messe, c'est quoi ça? Alors, Hildegarde, donc 9 siècles d'incubation. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on ait cet honneur, ce privilège, cette joie même d'assister à peut-être l'éclosion de cette graine? Ben, il y a quand même des choses très nouvelles qui sont arrivées ces 50 dernières années. Hein. Déjà, Vatican II, je dis ça comme ça, mais peut-être on en a compris qu'un dixième encore. Hein. Et puis bon, la première chose qu'on a compris, c'est un peu comme des enfants qui tout d'un coup peuvent faire ce qu'ils veulent, et donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on pouvait jouer de la guitare, on pouvait tout chanter, ce qu'on a envie de chanter, tout ça. Bon, on a fait un... que disent les textes? Les textes disent que, premièrement, alors, c'est le premier concile qui affirme que le latin est la langue officielle de l'Église dans sa proclamation liturgique. Jamais on n'avait eu un concile parce que c'était tellement évident. Mais là, c'est vraiment c'est la langue officielle de l'Église dans sa liturgie publique. Après, que le chant grégorien est le chant propre à la liturgie. Ça, jamais un concile n'avait affirmé ça. Troisième chose stupéfiante, tous les trésors de la musique sacrée et de toutes les époques seront considérés avec la plus grande attention. Jamais un concile nous avait dit d'aller voir ce qui se passait au 15e, au 14e, au 12e ou ailleurs. Et puis après, bon, il y a toute cette ouverture sur les églises d'Orient. Donc, il y a l'invitation vraiment à aller, et pas seulement, je dirais, en touriste ou en carte postale, je ne sais pas, mais essayer de comprendre comment fonctionnent ces liturgies orientales aussi. C'est un patrimoine commun, et surtout c'est un patrimoine qui a besoin de nous pour vivre encore, et même survivre. En plus, les chrétiens d'Orient sont dans des situations très délicates en ce moment. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'Église, dont on n'a pas encore mesuré toutes les implications. Et voilà que Hildegarde arrive au milieu de tout ça, comme pour donner de la matière, donner du sens. Parce que qu'est-ce qui fascine chez nos contemporains? Pourquoi sont-ils fascinés par Hildegarde? Bon, déjà, c'est ce rapport aux plantes, à la nature. C'est vrai qu'on est dans une époque où on ne sait plus ce qu'on mange, et tout est... Donc tout d'un coup, ce rapport sain à la nature, c'est pour ça qu'il y a des plantes, qu'on marche dessus, on pense que c'est des mauvaises herbes, puis c'est des plantes qui peuvent vraiment faire du bien. On n'a pas besoin d'aller prendre des cachets, acheter à la pharmacie, il peut y avoir... Donc il y a ce côté, je dirais, de contact avec la terre aussi. Chez Hildegarde aussi, le fait que ce soit une femme, alors c'est vrai que bon, des mouvements féministes aussi ont vu tout à coup une grande figure. C'est quand même la quatrième femme docteur de l'Église. Bon, la parité, on n'y est pas encore sur 35. mais c'est quand même un événement, et c'est une femme du 12e siècle. Donc je vous ai un petit peu évoqué le 12e siècle. Qu'est-ce qu'on peut retenir en essayant de condenser ce 12e siècle? Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui va arriver au cours du XIIe siècle, c'est un regard réflexif sur la tradition. C'est-à-dire, au cours du XIIe siècle, on va apprendre à regarder ce qui a été transmis de manière vivante par la tradition. C'est toujours un vivant qui transmet à un autre vivant. Et on va commencer à analyser, à entrevoir des incohérences et se demander s'il n'est pas possible, peut-être, de fonctionner différemment, d'imaginer. Alors, les premiers dans l'Église qui vont opérer cette brisure, c'est les cisterciens. Ouais, les cisterciens, ils regardent ce qui se passe, la liturgie, la manière dont... peut-être on se perd trop dans des détails, et ils se disent non, il faut revenir à des choses fondamentales. Donc c'est la pierre et la lumière, quoi. La pierre et la lumière, et puis des proportions claires aussi. Donc ils ont un sens de la proportion qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire sans glose, sans commentaire, sans ornement. Parce que la proportion dans ce qu'on voit, dans ce que l'on perçoit par les sens, elle est juste là, en fait, pour nous positionner. Nous positionner dans une posture où on va pouvoir faire autre chose. Cette autre chose, c'est la contemplation, évidemment. Et donc voilà, donc il y a, et quand on voit le conflit entre la génération de Saint-Bernard, donc la génération de Saint-Bernard, c'est ceux qui vont arriver aux affaires, on dirait maintenant, dans les années 30, voyez, 30, 35. 35, c'est là où meurt le troisième abbé de Cîteaux, Étienne Harding, qui lui était encore un homme du XIe siècle. Et au propos du chant, il est révélateur de voir comment le conflit entre cette génération du XIe siècle et puis les jeunes qui arrivaient, ce conflit, comment il s'est formé, comment il s'est organisé. Donc les cisterciens veulent revenir à la source des choses dans tous les domaines, donc le domaine du chant aussi. Et là, Étienne Harding dit, ben, la source, c'est Rome. Il connaissait le chant romain parce qu'il était allé à Rome dans sa jeunesse, donc il savait de quoi il parlait. Mais bon, il y avait des problèmes de guerre, des conflits entre un pape et un antipape. Enfin, c'était un peu compliqué d'envoyer des chantres à Rome. Et donc là, il envoie ses chantres à Metz, qui avait la réputation d'avoir conservé de manière assez fidèle la tradition romaine. Les chantres reviennent avec le chant de Metz, et là, les jeunes disent « Non, c'est pas possible, ça c'est un chant qui est corrompu, ça peut pas être ça, le chant cistercien, enfin le chant de l'origine. » Et à la mort de cette première génération, donc dans les années 30, voilà, une génération de Saint-Bernard va réformer complètement le chant, en faisant un chant avec des proportions très, très claires, très... c'est du grégorien toujours, hein, mais... Disons, ils vont le scander différemment, et ils vont le scander de manière à ce qu'on soit dans des proportions claires et immédiatement perceptibles. Quoi. Alors, Hildegarde, elle est aux antipodes du chant cistercien. Et d'ailleurs, il est significatif que dans les deux manuscrits qui donnent sa musique, je vous ai parlé du gros de Wiesbaden, il y a toute son œuvre, et puis l'autre, le petit, où il n'y a que sa musique, Hildegarde l'avait offert un monastère cistercien. Elle l'avait offert au père abbé. Et quand on voit l'état du manuscrit qui est neuf, on se dit ils n'ont pas dû l'ouvrir souvent. Là, ils l'ont ouvert une fois, puis ah, boum, ils ont dû le fermer. Mon Dieu, en plus une femme. Donc, heureusement pour nous, il est... J'ai son facsimilé là, je le mettrai sur la table, vous pourrez regarder. Oui, parce que sa musique, alors déjà pour les cisterciens, la musique devait avoir un ambitus clair, c'est-à-dire pour les modes père, une tessiture de 11 degrés, et pour les modes... pour les modes impair, une tessiture de 11 degrés, et pour les modes pair, une tessiture de 9 degrés. Point. Bon, je ne vais pas vous expliquer ça, mais Hildegarde, elle parcourt, c'est pas 11, ça peut être 15, 16 degrés, et puis elle va dans l'aigu, en descend dans le grave, elle parcourt tout le... Donc là, on est vraiment ailleurs, c'est un autre monde. C'est un autre monde, et donc... Hildegarde, par sa musique, à la fois nous transmet tout l'héritage qui était celui d'une moniale de cette époque-là et qui repose sur la psalmodie et sur une exploration des modes avec certains chromatismes aussi que l'on trouve dans Hildegarde. En même temps, Hildegarde bénéficie de cette... cette révolution dans la notation musicale, je dis qu'on était sur l'île, donc ce qui permet justement de parcourir l'échelle et de voir où ça monte, où ça descend, vous voyez, jusqu'à quel degré. Donc il y a une sorte d'ivresse que donne cette faculté de parcourir ces espaces. Hildegarde ne s'est pas du tout intéressé à la polyphonie, vous voyez. Je pense que c'est une musique vraiment profondément monodique qui demande une église avec une réverbération assez longue. Et pour terminer, je dirais que c'est un témoignage donc de cette vitalité, quoi. De cette vitalité à l'œuvre à ce moment-là et qui peut toucher des gens très différents sous des formes très différentes parce que... Je vous l'ai dit, on est très documenté finalement sur le XIIe siècle et il y a des répertoires. merveilleux qui sont très différents d'autres, une autre manière de voir la mélodie, la polyphonie, et puis imaginez tout ce qu'on a perdu aussi, parce que ce qu'on a conservé, à mon avis, c'est même pas un centième hein, de ce qui existait. Alors, pour terminer, donc, Hildegard, je pense que je vais en faire un rendez-vous annuel à Moissac, ouais, parce qu'il y a tellement de choses à faire, à dire, puis il faut chanter, puis il faut que ça rentre dans la pratique, hein, cette musique-là. Donc je pense qu'au printemps, là, peut-être, bon, voilà, tous les ans, autour de l'Ascension. Et puis, je pense que je vais créer un autre rendez-vous, cette fois-ci, dans un monastère de bénédictines à Liège, parce qu'elles sont intéressées. Peut-être qu'on pourrait aller célébrer la fête d'Hildegard le 17 septembre, parce que maintenant, elle est au calendrier, le 17 septembre, donc on peut en faire quelque chose d'important. Voilà, mais peut-être que cette pratique du 17 septembre se généralisera un peu partout assez rapidement. Ça, je n'en sais rien, mais...
Soyons fous.
Soyons fous.
Hildegard aimerait. Bon, peut-être remercier Marcel Pérez pour cette brillante intervention sur Hildegard.